Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, le dévoilement aujourd'hui du plan de paix pour le Proche-Orient de Donald Trump. Le président américain, fier de ce grand plan, comme il l'appelle, l'a partagé hier déjà avec le premier ministre israélien, enthousiaste lui aussi. Pas le cas des Palestiniens. Nous y revenons dès le début de ce journal. Nous irons également au Liban, où le Parlement a voté hier, non sans mal, le budget 2020, alors que le pays s'enfonce dans la crise sociale et économique et que la contestation se raidit chaque jour un peu plus. L'actualité reste marquée par la propagation du coronavirus. En Chine, le nombre de cas déclarés a doublé en 24 heures. Les Chinois sont invités à ne plus voyager. Les autres pays organisent le rapatriement de leurs ressortissants. Et puis, gros plan dans notre dossier sur le Burkina Faso. Comme ses voisins du Sahel, il subit la pression des groupes djihadistes qui pullulent dans la région. Les autorités de l'État sont bien en peine de les contenir. Nous donnons ce matin la parole au cardinal Ouédraogo, l'archevêque de Ouagadougou. C'est un cri du cœur qu'il nous lance ce matin.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Il y a 3 ans, Donald Trump avait confié ce dossier brûlant à son gendre et conseiller Jared Kushner. Le président américain doit dévoiler aujourd'hui donc son plan de paix pour le Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien en déplacement à Washington pour l'occasion, a déjà salué une feuille de route historique, tout l'inverse des Palestiniens qui s'y opposent catégoriquement. Pas de quoi pourtant entamer la confiance de Donald Trump. À New York, Loïc Loury.
C'est un très bon début, je pense qu'il a une chance de favoriser la paix. Voilà comment Donald Trump évoquait hier son plan pour le Moyen-Orient. Le président américain, depuis des années, promet le deal du siècle. Pas d'explication toutefois quant à la façon d'ouvrir le dialogue avec les Palestiniens. Ceux-ci en effet estiment que Washington est plus que mal placé pour faire ainsi office de médiateur après plusieurs décisions favorables à Israël, que l'on pense à l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donald Trump affirme seulement espérer in fine, dit-il, le soutien des Palestiniens. Pour l'heure, c'est loin d'être le cas. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, notamment, juge la proposition déjà morte. La feuille de route américaine prévoirait, selon les Palestiniens, l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies, ainsi que la reconnaissance officielle de Jérusalem comme seule capitale d'Israël. Le mystère, en revanche, reste entier sur la présence dans ce plan d'un État palestinien. Donald Trump et Jared Kushner ont jusqu'ici refusé d'utiliser ce terme, en rupture avec la position consensuelle d'une solution à 2 États. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Ce plan sera dévoilé à 17h GMT, soit 18h heure de Rome, et vous l'avez entendu, les Palestiniens s'y opposent d'ores et déjà avec force. Certains chefs de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, promettent de se retirer des accords d'Oslo si ce plan était effectivement appliqué. Le Hamas et le Fatah appellent à des manifestations aujourd'hui et mercredi en Cisjordanie et à Gaza. On annonce aussi une grande journée de la colère ce vendredi à Jérusalem. Dans ce contexte électrique, ces menaces de l'État islamique contre Israël, dans un message audio de son nouveau chef, le groupe terroriste annonce débuter une nouvelle phase de son djihad en ciblant spécifiquement l'État hébreu. Le message n'a pas été authentifié, mais il a été publié sur les organes de propagande habituels de Daesh sur les réseaux sociaux. C'est dans une ambiance fiévreuse que le Parlement libanais a voté hier son budget 2020, un budget qui prévoit un déficit d'environ 7% du PIB, le tout au cours d'une séance boycottée par plusieurs formations politiques, tandis que des dizaines de manifestants affrontaient les forces de police aux abords d'un Parlement quasiment en état de siège. À Beyrouth, le récit de Paul Ralifé.
Le Parlement libanais a tenu ce lundi sous haute protection militaire sa première séance plénière depuis le début du mouvement de contestation le 17 octobre. Les députés étaient appelés à voter le projet de budget 2020 en présence du nouveau gouvernement. Mais ce texte avait été préparé par l'ancien cabinet présidé par Saad Hariri, qui a démissionné sous la pression de la rue le 29 octobre. Cela a valu au Premier ministre Hassan Diab de sévères critiques de la part de députés, d'hommes politiques et d'experts qui estiment que les chiffres du budget ne correspondent plus aux réalités apparues après 3 mois de crise économique et financière sans précédent. La loi a d'ailleurs obtenu le soutien de 49 députés seulement sur les 128 que compte le Parlement, le plus bas résultat jamais obtenu lors d'une séance de vote du budget dans les annales parlementaires libanaises. La séance a été expédiée en une demi-journée, alors que les débats budgétaires s'étalent d'habitude sur plusieurs jours. Pour écourter les débats, Le président du législatif, Nabih Berri, a invoqué des considérations sécuritaires qui provoqueraient un défaut de quorum au cas où les députés ne parvenaient pas à revenir au Parlement. Beyrouth, Paul Khalife pour Radio Vatican.
En Irak voisin, les manifestants anti-gouvernementaux ne désarment pas malgré la répression qui s'est intensifiée. Les protestataires ont reconstruit leur campement qui avait été incendié ces derniers jours, notamment à Bagdad. Et hier soir, ils étaient encore des milliers à défiler dans les rues de la capitale et celles d'autres villes chiites. L'Irak, où l'on est toujours sans nouvelles des quatre collaborateurs de l'association française SOS Chrétiens d'Orient, portés disparus depuis le 20 janvier dernier alors qu'ils se trouvaient à Bagdad pour des formalités administratives. Les autorités irakiennes et françaises sont toujours à leur recherche. Une grande chaîne de prières et de solidarité s'est organisée. La France appelle les États-Unis à ne pas se désengager du Sahel. La ministre française de la Défense, Florence Parly, est à Washington hier pour rappeler combien le soutien de l'armée américaine aux forces françaises sur le terrain était crucial dans la lutte contre les djihadistes, dont les attaques se multiplient. Le chef du Pentagone a assuré qu'aucune décision n'avait été encore prise, précisant que son pays voulait réajuster son déploiement militaire dans plusieurs régions du monde. La situation au Sahel, notamment au Burkina Faso, nous en parlons tout à l'heure dans notre dossier. En Chine, l'épidémie de coronavirus continue d'avoir des répercussions aux dimensions internationales. Pékin recommande aujourd'hui à sa population de reporter tout projet de voyage à l'étranger. Et pendant ce temps, plusieurs pays organisent l'évacuation de leurs ressortissants. Des décisions qui ne seront pas sans conséquences sur l'économie. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
Reporter des voyages sans nécessité particulière. À nouveau, le gouvernement chinois fait preuve de fermeté. L'administration nationale de l'immigration souhaite protéger la santé et la sécurité des Chinois comme des étrangers. Et de l'autre côté des frontières, la propagation du virus fait réagir. L'Allemagne et la Thaïlande réfléchissent à l'évacuation de leurs ressortissants présents à Wuhan, foyer de l'épidémie. Pour les États-Unis, la France, le Japon et le Maroc, la décision est déjà prise. Une évacuation aérienne aura lieu aujourd'hui pour le Japon, dans les prochains jours pour les autres pays. Côté français, cela devrait représenter un millier de personnes, dont des salariés des usines Renault et PSA et de nombreux étudiants. Les personnes rapatriées seront soumises à une période de quarantaine. Les Japonais, quant à eux, sont pour la plupart des salariés des 200 firmes nippones implantées dans ce foyer industriel du centre du pays. Le ralentissement prévisible de l'industrie et du tourisme fait donc craindre un sérieux coup de froid économique. Pour l'heure, le bilan de l'épidémie est de 106 morts en Chine, 4500 cas confirmés. La ville de Pékin a fait état hier de son premier décès. Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés à l'étranger dans une douzaine de pays. En Allemagne, un premier cas de contamination a été confirmé hier. Le pays devient le deuxième touché en Europe après la France.
Adélaïde Patrignani. En Nouvelle-Zélande, la première ministre convoque des élections législatives anticipées pour septembre. Jacinda Ardern, issue du centre-gauche, compte briguer un nouveau mandat. Très populaire à l'étranger, elle est en revanche un peu moins dans son pays, en cause un conflit territorial qui crispe les relations avec les Maoris et un plan de construction de logements ambitieux mais qui ne tient pas ses promesses. L'économie du pays souffre d'une faible croissance alors que le coût de la vie a augmenté. La Grèce tente le tout pour le tout. Boudé par les marchés financiers pendant des années, le pays qui remonte la pente au niveau économique veut lancer aujourd'hui un emprunt de 15 ans. C'est la plus longue échéance depuis le début de la crise financière grecque en 2010. À Athènes, Alexia Kefalas.
La Grèce a décidé de défier les marchés financiers en lançant un emprunt à 15 ans, la plus longue échéance depuis le début de la crise financière en 2010. Il faut dire que les faibles taux d'intérêt sur les marchés et la récente annonce de l'agence de notation Fitch, qui a relevé d'un cran la note de la dette, estimant que sa soutenabilité continuait de s'améliorer, laisse augurer de bonnes nouvelles. L'objectif est donc double, financier d'une part. Le pays table ainsi sur 2,5 milliards d'euros à un taux d'intérêt à 2% et une échéance à 2035. Mais il est aussi politique, d'autre part, avec affiché un retour à la normale, comme le martèle le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Il y a encore quelques mois, la Grèce n'était pas la bienvenue sur les marchés financiers qu'il en avait exclu en 2010. Aujourd'hui, le redressement de l'économie et le retour de la croissance ouvrent de nouvelles portes, mais aussi de nouvelles perspectives. La Grèce projette ainsi d'emprunter jusqu'à 8 milliards d'euros officiellement cette année, mais pourrait bien aller au-delà. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
L'annonce était inattendue. Le Premier ministre slovène se retire. Marian Šarec, pro-européen, a présenté sa démission ce lundi, mettant fin à un gouvernement minoritaire de centre-gauche composé de 5 partis depuis 2018. Ne disposant que de 13 députés, il n'a pas réussi à former une majorité parlementaire. Le sud-est du Brésil, sous les eaux, suite à un phénomène climatique assez rare, des pluies exceptionnelles ont touché plusieurs régions ces derniers jours, provoquant des glissements de terrain et des inondations, faisant 45 morts, un bilan encore provisoire. On compte également plus de 15 000 déplacés. Le Burkina Faso pris dans une spirale de violence. Chaque jour ou presque, le pays est victime de nouvelles attaques perpétrées par des groupes djihadistes. Dernière en date, samedi dernier, dans un village du Nord, une dizaine de civils ont été tués sur un marché. Depuis 2015, les attaques djihadistes ont fait plus de 750 morts et 560 000 déplacés au pays des hommes intègres. Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, nouveau président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, exhorte à la fin des violences et lance ce matin un cri du cœur.
La situation que nous vivons actuellement au Burkina Faso est très préoccupante. Des frères qui tuent leurs frères et leurs sœurs. Alors ce que nous pouvons dire, c'est un cri de cœur, que tous ceux qui tuent leurs frères, qu'ils déposent les armes. Nous souhaitons que le peuple ait un sursaut aussi de solidarité, d'unité, pour faire face à cet hydre de violence.
Qui aurait intérêt aujourd'hui à déstabiliser le Burkina Faso et les pays de la région?
C'est les questions que nous nous posons. Qui soutient tout ce mouvement d'assassins? Nous n'avons pas d'usine d'armes. Qui les arme? Qui les finance? Qui les organise? Il y a certainement des ramifications ad intra à l'intérieur comme ad extra à l'extérieur, même si nous n'arrivons pas à les identifier. Le pouvoir, l'État, les forces de défense et de sécurité sont là, mais semblent un peu dépassés par les événements.
Il y a aujourd'hui au Burkina Faso une volonté de créer des tensions communautaires et interreligieuses.
Ces attaques, c'est global. Nous ne pensons pas qu'on vise spécialement les religieux, même si les catholiques, les protestants ont été attaqués, même dans les lieux de culte. Et de façon paradoxale, même des musulmans ont été massacrés. Donc on ne peut pas dire que la cible première, c'est seulement les religieux, même si les religions, dans la globalité des attaques terroristes qui s'adressent à tout le monde, à toute la population, font les frais.
La France vient d'annoncer l'envoi de renforts supplémentaires au Sahel, quelques jours après l'organisation du sommet G5 Sahel en France. La présence internationale, et notamment française, est importante dans le pays. La stratégie doit être repensée.
Les autorités coutumières et religieuses se sont retrouvées à Ouagadougou pour adresser un message à l'occasion de la nouvelle année et interpeller les uns et les autres. Et dans cette perspective, nous avons souhaité qu'on renforce la solidarité à un triple niveau, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Voilà, donc dans cette perspective, et les chefs d'État réunis à Pau ont demandé et souhaité que se poursuive cette coopération. Parce que tout seul, on dit chez nous qu'un seul doigt ne ramasse pas la farine. Il faut ensemble vraiment vivre de façon concrète, efficace, la solidarité au plan local, régional et au plan international. C'est une nécessité.
Dans ce contexte, quel doit être, quel peut être le rôle de l'Église?
L'Église essaie d'être très solidaire avec notre peuple. Et ce que nous pouvons faire, on le fera pour la protection de la vie. En outre, le dialogue interreligieux reste un pivot essentiel de notre pastoral. Nous essayons vraiment ensemble de travailler main dans la main dans le dialogue interreligieux. 18 musulmans ont été massacrés. Alors les protestants et les catholiques, ensemble nous sommes allés à la grande mosquée pour présenter nos condoléances. Les protestants ont perdu 14 jeunes dans un temple. Nous nous sommes retrouvés à la Fédération des églises évangéliques pour présenter nos condoléances. Quand le jeune prêtre a été assassiné dans le diocèse de Kaya, une trentaine de musulmans, et puis les protestants, ils sont venus nous présenter leurs condoléances. C'est pour illustrer un peu notre désir de travailler ensemble et de contribuer tant soit peu à l'apaisement et aussi à l'avènement de la paix. Et notre force pour nos chrétiens, c'est la prière et aussi les efforts de solidarité que nous pouvons essayer de manifester. La paix est un don de Dieu. La paix est le fruit des efforts des hommes.
Voilà, interrogé par Hélène Détombe, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute attentive et fidèle. L'actualité vaticane et internationale revient à 13h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une très belle journée.